Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, ça sera mieux avec le micro. Je vous propose que nous ouvrions notre Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23. Et nous allons lire, partager ce récit, ce texte. C'est un enseignement que Jésus nous donne. Alors nous allons lire et puis j'apporterai quelques mots de commentaire et nous nous retrouverons pour une seconde fois parce que tout ce paragraphe mérite, eh bien, réflexion plus approfondie. Donc, Matthieu chapitre 23, verset 1er. Alors, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi ». Rabbi, ça veut dire maître. Mais vous ne vous faites pas appeler « Rabbi », car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élève, s'élèvera, sera abaissé, et quiconque s'abaissera, sera élevé. J'ai intitulé cette réflexion ce matin. Alors, il y a un peu d'originalité dans ce que nous allons partager, mais il faut le dire, puisque je n'invente rien, ce sont les enseignements de Jésus et notre devoir, c'est de dire comme Jésus a dit. Et je ne voudrais pas troubler la conscience de personne, je le dis à chaque fois, mais il faut bien reconnaître que les paroles de Jésus sont d'une grande vivacité, pour ne pas dire sévérité. Et j'ai intitulé ce message ce matin « Un certain Jésus révolutionnaire ». Alors j'espère que je vous choque pas. La révolution. Voyez un peu ce que ça peut représenter. Parce qu'il y en a eu des révolutionnaires hein, dans l'histoire du monde. Mais je crois que le seul qui était juste, dont la révolution a été véritablement pour le bonheur des hommes, pour leur épanouissement, pour les préparer à un royaume qui n'est pas une espérance terrestre, une espérance d'ici-bas, mais une espérance céleste, terrestre, mais aussi céleste. Alors, je veux dire, et je voudrais vous parler de ce Jésus en tant que révolutionnaire. Et je dis que Jésus est venu faire sa révolution. Et si vous lisez attentivement l'Évangile, vous comprendrez que c'est une révolution morale et une révolution spirituelle. Et ça ne va pas vers l'extérieur comme tous les révolutionnaires qui se sont succédés à travers les âges, où c'était des choses extérieures. Changer la société, changer les lois, faire la guerre pour arriver à la paix. Mais c'est une révolution intérieure et morale et spirituelle, et il y en a un qui nous en parle Et ça fait suite un petit peu à toutes nos méditations que nous avons pu partager depuis quelques semaines sur la position du corps, de l'âme et de l'esprit. Et je vous rappelle tout simplement que Paul dira ces choses. Il dira que nous combattons non pas avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles par la vertu de Dieu, par la puissance de Dieu, pour renverser des forteresses. Et ce matin, nous allons parler de forteresse de l'entendement, forteresse intérieure. Et peut-être nous les avons pas soupçonnées, mais les plus grandes forteresses qui s'opposent à Dieu, ce sont les forteresses religieuses. Alors, là encore, il y avait peut-être moyen de se choquer. Vous me dites religieux, mais religieux, c'est la Bible. Non, la Bible, c'est la Bible, l'Évangile, c'est l'Évangile, et la religion, c'est autre chose. Et Paul le dit, Jésus va le confirmer à travers notre méditation, vous allez être très attentifs et vous allez voir que nous ne sommes pas appelés à être des hommes religieux qui font fonctionner leur âme uniquement, mais avec une dimension supérieure, c'est la dimension de l'esprit. Et Paul le dira, mais nous avons des armes puissantes. Pour renverser les forteresses, et je poursuis, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a la connaissance de Dieu, il y a la volonté de Dieu, il y a le message biblique dans son sens spirituel, il y a le message de l'évangile que Jésus nous a laissé, le message des apôtres qu'ils nous ont laissé, et puis il y a toutes les philosophies religieuses. Toutes les traditions religieuses. Il y a tout ce que les hommes ont pu inventer pour se conforter en laissant la volonté de Dieu, le commandement de Dieu, la pensée de Dieu, pour se faire à eux, eh bien, quelque chose qui les convenait, qui pouvait bien les habiller à leur taille, mais qui n'était pas dans la convenance et qui n'était pas dans la pensée du Seigneur. Alors, contre la connaissance de Dieu, et Paul dira, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. C'est-à-dire à reconnaître Jésus comme le seul Sauveur, Seigneur, le Souverain, celui qui est le Père, celui qui est le Directeur, puisque les mots sont cités, celui qui est tout en tous, et non pas une institution religieuse, qu'elle soit évangélique, je voudrais encore prévenir, qu'elle soit protestante, qu'elle soit catholique, qu'elle soit orthodoxe, une institution religieuse, qu'elle soit et qu'elle sorte finalement du contexte même du christianisme, comme il y en a tant, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, et tout ce que vous voudrez. Ça, ce sont des conceptions humaines. Mais c'est important, justement, de nous laisser enseigner par la révolution de Jésus. Jésus est venu à faire une révolution, celle des habitudes, et des coutumes humaines, qui ont été amalgamées, ou dont quelquefois le fait religieux a pris le dessus, à travers des traditions, à travers des calendriers, à travers des rites, à travers toutes sortes de choses. Mais pour cela, il faut que le cœur et la pensée de l'homme soient changés, parce qu'il ne peut pas s'en sortir. Paul le dira, vous avez abandonné vos idoles pour adorer le Dieu vivant et vrai. Connaissez, c'est dans le Livre des Actes. Le cœur et les mentalités qui doivent être changées, on appelle ça comment dans notre contexte biblique ou notre contexte évangélique? La nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus s'adressait, figurez-vous, à un homme qui était certainement des plus religieux en Israël. Il s'appelait Nicodème. Et lui ne savait rien, il croyait tout connaître. Il était docteur de la loi, mais il ne connaissait pas. Les cœurs et les mentalités qui ont été calcifiés, qui ont été en quelque sorte fossilisés par des choses que l'on répète de génération en génération, sans tellement comprendre le sens. Mais pourvu qu'on les fasse, alors notre conscience, elle est tranquillisée. C'est faux. Parce que c'est pas la vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rebuts. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rejets contre, finalement, le monde ne veut plus entendre parler de religion, ils ont raison. Parce que finalement, ça n'amène à rien. Ça n'amène que à répéter les mêmes choses, comme l'exemple des Juifs, puisque nous allons prendre l'exemple d'Israël, avec le judaïsme, et Jésus était juif. Mais permettez-moi de dire que Jésus, quand il est venu, il a donné, pardonnez-moi, un drôle de coup de pied dans la fourmilière, et ça n'a pas plu à tout le monde. Il y a des gens qui ont applaudi, qui se sont dit, maintenant voilà, un souffle nouveau vient du ciel, le message de l'Évangile. Maintenant, nous allons pouvoir vivre, nous allons pouvoir nous épanouir, nous sommes libérés, comme on l'a entendu, de la peur, de la crainte, la peur des hommes. Parce que l'homme exerce un joug terrible sur la conscience des autres. Jésus est venu faire sa révolution pour bousculer les institutions, l'establishment, empoussiéré, encombré, quand on le voit rentrer dans le temple, et là, renverser les tables des changeurs, bousculer tout ce qui se trouve, parce que Jésus était horrifié de voir ce que l'on pouvait faire avec le temple de Dieu, l'ayant changé dans une religion qui était une religion de mercantilisme, où là il n'y avait que des questions d'argent, d'échange d'argent. Scandaleux, non? Jésus est venu justement changer tout cela, bousculer tout ce qui était empoussiéré depuis des siècles et des siècles, depuis Moïse. Et ce qui ne changeait en rien, que la loi de Moïse était une loi bonne, mais elle n'était plus vécue avec le cœur, elle n'était plus vécue dans l'esprit, elle était vécue dans une tradition, dans un ritualisme qui n'avait plus de sens. Et pour apporter justement, la contrepartie, c'était d'apporter de la fraîcheur dans un monde qui était desséché par toutes ces choses qui n'avaient pas de signification réelle et qui ne trouvaient pas leurs racines dans l'Écriture sainte. Jésus le dira à un moment donné, il dira « Vous avez changé le commandement de Dieu au profit de vos traditions. » Et vous faites toutes sortes de choses, on le verra la prochaine fois, mais vous faites toutes sortes de choses qui n'ont pas de sens, sinon qu'un sens extérieur pour vous mettre en avant devant les autres, pour montrer votre spiritualité, enfin prétendue spiritualité. Alors Jésus a eu beaucoup de détracteurs et d'ennemis. Ses meilleurs ennemis, si vous permettez de le dire, c'était véritablement la classe religieuse d'Israël, les scribes et les pharisiens dont nous avons lu le nom il y a un instant. Et vous savez où ça l'a conduit, Jésus? Eh bien, ça l'a conduit à la croix. Ça l'a conduit tout simplement, à être crucifié, parce qu'on l'avait livré par envie. On l'avait livré parce que on regardait Jésus comme un usurpateur, celui qui bouge les choses, celui qui fait remuer les... qui bouge les lignes, vous comprenez? Alors ça, il ne le supportait pas. L'esprit dévot, l'esprit religieux, est un mal récurrent. Oui, c'est un mal récurrent. Et on comprend qu'il y a beaucoup de gens qui se détournent de Dieu parce qu'ils ne voient que dans Dieu la religion. C'est ce qu'ils identifient, c'est la religion. Et Jésus a gravement stigmatisé cette attitude. Et je voudrais dire une chose, l'authentique spirituel, la personne même de Jésus, ses enseignements, tout ce que nous trouvons dans l'Évangile, ça insupporte l'homme à l'esprit religieux. Il ne peut pas le supporter. Vous en savez quelque chose quand vous rendez témoignage autour de vous, à votre famille? Allez, arrête avec tes histoires, on n'en a pas besoin. Comprenez, on a souvent été renvoyé un petit peu dans les cordes. Hein. Qu'est-ce que tu prétends savoir? Qu'est-ce que tu prétends nous apprendre? Mais on connaît tout ça, on a fait le catéchisme. Oui, faire le catéchisme et lire la Bible, c'est deux choses différentes. C'est tout à fait différent. Alors, on est en face d'un réquisitoire. Vous savez ce que c'est qu'un réquisitoire dans un tribunal? Des plus sévères contre les erreurs religieuses. Et quelles qu'elles soient, je parle du christianisme, comme Jésus faisait référence au judaïsme, et comme nous pouvons finalement donner une approche avec toutes les religions de la terre, parce que elles ont tous le même point commun. Ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme. Alors Jésus prononce un terrible verdict de culpabilité, mais de vraie culpabilité, en 7 chefs d'inculpation. On le verra la prochaine fois. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous faites ceci, parce que vous faites cela, parce que vous tenez les gens en tenaille, parce que vous les étouffez, parce que vous les empêchez de vivre, vous les empêchez même de venir à Dieu et de se convertir. Deux principes ici sont relevés. La bassesse de certains, parce que Jésus est en train de ne pas relever la spiritualité des scribes et des pharisiens, mais plutôt de leur bassesse. Sans qu'ils sachent que c'est de la bassesse. Même s'ils sont en position d'autorité, Jésus n'a jamais dit et enseigné à ses disciples de se révolter contre les autorités religieuses. Même s'il y a des choses qui sont choquantes, comme on en voit encore aujourd'hui, mais de respecter les autorités, quelles qu'elles soient, politiques ou autres. C'est pas pour ça qu'il faut se donner le droit de dire, voilà. Non, parce que Jésus est venu pour aimer même ces gens. Et pour les enseigner et leur apporter la vérité. Vous connaissez, hein? Paul le dit, hein? La connaissance de la vérité afin qu'ils soient sauvés. Alors ça ne nous autorise pas. Mais il faut dire ce qu'il faut dire, parce que Jésus a été très sévère. Mais je crois que nous-mêmes, il faut que nous sachions aussi tenir notre place. On n'est pas venu pour condamner et juger les hommes, on est venu pour leur apporter un message, et avec la grâce de Dieu, s'ils peuvent, arriver finalement, eh bien, à être transformés dans le fond de leur cœur, c'est formidable. Qu'est-ce que nous étions auparavant? Pour la plupart d'entre nous, nous avons été élevés dans une religion traditionnelle. Mais un jour, le Seigneur est venu frapper à la porte de notre cœur pour nous dire qu'il y avait une autre vie, qu'il y avait une autre expérience, une autre rencontre, qu'une simple adhésion, une simple appartenance à une religion dans laquelle on n'avait même pas choisi nous-mêmes. Alors, ça c'est la première des choses, un premier principe, la bassesse de certains ne doit pas nous autoriser finalement à juger. Ça c'est une chose. Maintenant, leur mauvais exemple, parce que c'est ça ce qui est mis devant nos yeux, est relevé comme étant enfoui sous le manteau de l'hypocrisie. Alors, savoir ce qui est vrai, savoir ce qui est faux, ça, justement, Jésus est en train de nous l'enseigner. On appelle ça de la duplicité, c'est-à-dire avoir deux visages, deux langages. Et c'était bien le problème des scribes et des pharisiens. Ils avaient une apparence, nickel. Mais derrière, Dieu qui voit les cœurs, savait très bien ce qu'il y avait. Alors, ces admonestations sont adressées à destination de la foule et des disciples. C'est en quelque sorte une mise en garde pour les prémunir contre l'orgueil et l'aveuglement spirituel. Faisons attention que si aujourd'hui nous sommes debout, faisons attention demain de ne pas tomber. Et dans les mêmes travers, et faisons attention de ne pas tomber aussi dans nos églises évangéliques, d'en arriver à un traditionnalisme, à un ritualisme qui fera de nous peut-être de braves gens, des gens avec une moralité, mais il n'y aura plus de vie de l'esprit. Parce que ce qu'ont été les pharisiens, eh bien, nous pouvons le devenir nous-mêmes. Alors, c'est pour ça que il faut être très attentif à ce qui nous est enseigné, et l'orgueil, l'aveuglement spirituel, et vous avez remarqué, vous pourrez le relire parce que j'ai pas tout lu ce matin, mais le mot hypocrite revient 12 fois dans ce paragraphe, dans ce chapitre, nous pourrions dire, et le mot malheur revient 8 fois. Et vous savez, s'il y avait une chose que les pharisiens recherchaient plus que tout, c'était la bénédiction de Dieu. Et Jésus leur répond par malheur. Curieux, hein? Ils recherchaient la bénédiction de Dieu, à être bénis de Dieu. Mais leurs faits, leurs agissements, leur mentalité, leur conception faisaient que Jésus va leur dire, mais écoutez, non, vous pouvez pas trouver la bénédiction si vous faites ceci, si vous dites cela, si vous pratiquez tellement d'injustices, vous écrasez les hommes qui sont sous votre responsabilité. Alors n'escomptez pas avoir la bénédiction, c'est pas possible. Les apostrophes sont foudroyantes, et on va en avoir la preuve, je relis. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, assis, bien installés. Ils se réclament de Moïse. Ils se disent, mais Moïse, c'est notre maître à penser, c'est le fondateur de notre foi, de notre religion. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Et ils se plaçaient, les pharisiens et les scribes, dans l'éminente position de conducteurs, en disant que dans la société d'Israël à l'époque, eh bien, ils étaient véritablement les plus beaux, les plus grands, les plus intelligents, les plus spirituels, les plus religieux, tout ce que vous voulez. Et ils étaient assis, ils étaient campés. Et rien ne se faisait. Comme ça s'est vu dans notre société d'hier, avant la Révolution, où il y avait le roi, il y avait Dieu, le roi, et puis c'était tout, hein. Tout simplement. Heureusement, la Révolution française est venue pour nous donner la liberté de conscience aux uns aux autres, parce qu'autrement nous serions toujours dans la même situation, comme d'autres peuples aujourd'hui, nous en entendons parler tous les jours, sont encore sous la férule d'un pouvoir tyrannique et despotique, et dans la conscience, par la peur. Alors que la foi, c'est la libération, c'est l'épanouissement. On n'a jamais été aussi heureux que de connaître Jésus et de vivre dans l'Évangile. C'est la liberté, n'est-ce pas? Alors, ils se plaçaient donc dans cette position, et on les disait les maîtres à penser. Quand il y avait quelqu'un qui avait une question, on allait voir tout de suite monsieur le pharisien. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on observait, hein. Il y avait attention, c'était maître à penser du peuple, directeur de conscience d'autrui. Et on dirigeait même dans les choses les plus indifférentes de la vie. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, parce que, voilà, c'était comme ça, hein, tout simplement. Mais où est la liberté individuelle à ce moment-là? Quand j'ai des décisions à prendre, je les prends moi-même, je les prends en concertation avec Dieu, mais ce n'est pas aux hommes, bien qu'il puisse y avoir de bons conseils donnés par les hommes. Hein. Je n'annule pas. Hein. Des gens de confiance, comprenez? Mais quand il faut avoir l'autorité religieuse pour dire qu'est-ce que je dois faire pour ceci et cela, ça devient un esclavage, une tyrannie. Hein. Quand on sait qu'intérieurement, eh bien, c'est pas ça. On comprend la révolte des gens. Hein. Un peu, c'est bon, hein, mais ça va, c'est bien comme ça. Hein. Pour vous dire simplement que tout véritable christianisme n'est pas dans le titre ou dans les titres que nous portons, mais dans l'application de ce que l'on sait. C'est-à-dire, ça va des paroles aux actes. Et vous avez remarqué, ils sont assis dans la chair de Moïse, ils vous disent, faites donc, enfin, ils disent, pardon, et ne font pas. Voilà, c'est le gros problème qui est relevé à travers, tout simplement, eh bien, la chose. L'accusation que Jésus fait à ces pharisiens, à ces juifs, c'est, elle est cinglante et elle est frontale. Car ils disent, je le disais il y a un instant, mais ils ne font pas. Cela consiste dans une forme de tromperie à paraître et à donner l'impression sans être vraiment la réalité. Et on le relit, parce que c'est important, il lit des fardeaux pesants et ils les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Voilà ce que Jésus avait relevé. Dans la société dans laquelle il vivait, Jérusalem, la ville de Dieu, la ville où il y avait le temple de Dieu, où il y avait la concentration finalement d'une gloire de Dieu, d'une spiritualité extraordinaire, et voilà ce qu'ils en avaient fait. Ils étaient devenus les rois, ils étaient devenus les maîtres, ils étaient devenus en quelque sorte, eh bien là, Dieu quelque part. Tout simplement. La gravité de ce comportement, aux apparences anodines, parce qu'il faut quand même le souligner, pouvait passer pour de petits défauts. Oui, bon, comme ce sont des religieux, ben voilà, ils sont comme le reste des hommes, mais bon, ça passe, ça glisse, on n'y fait pas trop attention, des petits défauts. Or, pour Dieu, et c'est Jésus qui nous le dit, ce sont des péchés. Ce sont des péchés. Parce que je voudrais quand même ajouter ceci, c'est qu'il y a des péchés qui relèvent de la faiblesse humaine. Où nous avons tous confronté avec notre propre faiblesse personnelle. Et là, nous succombons à la tentation. Mais ce n'est pas de cela qu'il est question. D'autres péchés manifestent une volonté délibérée à écraser, à dominer, à assujettir par la peur, tels que les péchés religieux que Jésus dénonce. Et ça, ça ne se voit pas. C'est comme le péché d'occultisme. On dira, bah, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça signifie le péché d'occultisme? La magie, l'horoscope, savoir à deviner l'avenir, etc. On se dit, c'est pas grand-chose. Bien que dans la conscience humaine, on se dit, il doit y avoir quelque chose de mauvais derrière. Mais on y va quand même par nécessité. Par nécessité qu'on se donne à soi-même. De suggestion qu'on se donne à soi-même. Et nous voyons que Jésus va être là, eh bien, catégorique. Parce que vous savez qu'une mauvaise herbe. Et là, on n'irait pas la chercher dans une église. On n'irait pas la chercher dans un milieu, dans un contexte religieux. Non, il n'y a pas de mauvaise herbe, c'est pas possible. Et on sait très bien qu'une mauvaise herbe, eh bien, est très difficile à déraciner lorsqu'elle pousse dans une croyance religieuse. Et on a été éduqués les uns et les autres, et moi le premier, dans un contexte religieux, on nous a inculqué dans notre pensée, dans notre esprit, dans notre âme, profondément dès notre plus jeune âge, comme l'apôtre Paul qui va renier tout ça à un moment donné, qui va se révolter contre tout ça, parce que ça fait partie intégrante, et on a du mal à penser autrement parce qu'on a été moulé, on a été formaté pour penser comme ça, sur le plan religieux. Hein. Et on s'est jamais posé la question si c'était vrai ou si c'était faux. Si on était heureux ou malheureux. Tout en sachant qu'on n'était pas toujours très heureux. Mais c'était comme ça, tout simplement. C'est pour ça que Jésus est un révolutionnaire. Le plus grand de tous les révolutionnaires de tous les temps. Et on peut dire que cette racine-là, cette mauvaise plante, cette mauvaise herbe est la plus ténue à déraciner parce qu'elle est peu combattue. Et Jésus va faire état dans la suite, et on va en parler, de la paresse spirituelle, de la duplicité, donc de l'hypocrisie, des pieux mensonges. Ah non, 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 il y a des vrais mensonges et des petits mensonges et des gros mensonges, vous comprenez? Normal, le mensonge, c'est le mensonge, de toute façon. L'égoïsme, l'orgueil, de savoir que finalement, eh bien, on est au-dessus des autres. Ouais. Ça, ce sont des mauvaises graines. Et derrière une bonne mine de dévotion. Ah, parce que il est là dans un contexte, parce qu'il a une autorité reconnue, parce qu'on le salue bien bas, monsieur le pharisien, monsieur le scribe, eh bien, on va pas se porter de jugement, on va pas se poser la question. Mais qui sont ces hommes? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Est-ce qu'ils croient réellement Jésus-Christ ou ils croient réellement en eux-mêmes? La question, elle est là. La question, elle est là. Là où les pharisiens excellaient dans leur pharisianisme, était de commander et d'exiger des autres. Ah oui, c'était très fort pour cela, à travers des règles sévères, et, bien sûr, en s'excluant eux-mêmes de les mettre en pratique. Faites, mais nous, on n'y touche pas, vous comprenez? Jésus nous le dit. Faites donc et observez ce qu'ils vous disent, dira Jésus. Respect pour, c'est vrai, les autorités, on en a parlé tout à l'heure. Observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants sur les épaules. Ils ne veulent pas les remuer. Toutes leurs actions est faites pour être vues, finalement, par les hommes. Ils lient des fardeaux pesants. Alors ces fardeaux, ils ne sont pas visibles. Ce sont des fardeaux qui touchent notre conscience, qui paralysent notre pensée, qui nous amènent à être, là, captifs, à être renfermés dans des forteresses d'entendement, où nous ne sommes pas, finalement, nous avons des chaînes à l'intérieur de nous-mêmes. Des chaînes qui sont exploitées par les hommes, mais derrière, il y en a un qui tire les ficelles, vous comprenez? Je dis pas le nom. Parce que lui, il excelle aussi. Parce que c'est son travail de mettre les gens dans une crainte, dans une peur du jugement, dans une peur de la condamnation. Alors il lit des fardeaux pesants à travers des devoirs de conscience, à travers des commandements d'église, à travers des contraintes, à travers la culpabilisation à mort. Je le répète ce matin parce qu'il faut que je le dise à chaque fois quand je parle de culpabilité. Il y a une vraie culpabilité qui est celle du Saint-Esprit, qui nous amène à la repentance et aussi à la libération. Et il y a une fausse culpabilité qui est là le travail de l'adversaire et des mauvais esprits pour nous amener, à en perdre notre joie et notre paix et même notre communion avec Dieu. Il y en a une vraie, il y en a une fausse. Et le fait religieux nous amène souvent à être sous le poids d'une fausse culpabilité, mais nous ne savons pas qu'elle est fausse. Et c'est ça justement toute sa force, c'est que nous ne savons pas qu'elle est fausse. Mais si vous écoutez, si vous lisez l'évangile, vous allez voir qu'elle est fausse celle-là. Et vous allez vous en affranchir. Parce que, comme Paul le dira dans Philippiens, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne retournez pas à ces vaines pratiques et à ces vains rudiments. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchi. Et moi je souhaite, autant que je serai là pasteur, que vous soyez vraiment libres. Libres! Parce que c'est pour cela et c'est à cela que nous avons été appelés. Alors, ils vous disent, mais il ne veut pas remuer les fardeaux qu'ils mettent sur les épaules des autres et sur le cœur ou la conscience des autres, même avec le petit doigt, c'est pas pour eux. Se donner, la suite, se donner ou se faire donner le nom de père. Vous avez remarqué avec moi, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre mère, et vous êtes tous frères, et n'appelez personne sur la terre votre père. Quelquefois, dans l'exercice du ministère, il y a des gens qui sont venus me voir en disant « mon père », qui avait peut-être au moins 30 ou 40 ans de plus que moi. J'ai pas trouvé la généalogie formidable. Enfin, en tous les cas, le rapport, hein, formidable. Mais parce que les gens sont habitués, vous comprenez. C'était un signe de respect par rapport à ma personne, c'est vrai. Mais écoutez, Jésus nous dit, comment se fait-il que l'Église chrétienne a fait le contraire de ce que Jésus a dit? On ne comprend pas. Est-ce que véritablement, dans l'Église chrétienne, on lit la Bible? On lit l'Évangile puisqu'on se réclame de l'Évangile. Mais qu'est-ce que c'est que ces paroles? Alors après, quand on y met des adjectifs un peu pompeux, le Saint-Père, le souverain pontife, hein, excusez-moi, j'en veux à personne, hein, mais et puis ceci et cela, le très Saint-Père, etc. Alors surtout, ne m'appelez pas Père. Non, je sais que vous ferez pas. Mais je suis déjà Père, hein. 3 enfants, 6 petits-enfants, c'est déjà pas mal. Eh oui, mais bon, c'est un autre rapport, hein, naturellement. Alors, ne vous faites pas appeler père, rien ne discrédite davantage la vérité que les faux-semblants ou des appellations fallacieuses. Comment les gens peuvent-ils croire avec des choses pareilles? Mais ils le font par habitude, ils le font sans réfléchir. Or, l'Évangile, c'est une révolution qui nous donne de penser notre foi, de réfléchir à ce que l'on croit, et de nous laisser animer par un renouvellement dans l'intelligence et dans notre esprit. C'est Paul qui le dit. 1 Corinthiens chapitre 10, vous pourrez le lire. Vous pourrez le revoir tout cela, c'est dit. Hein. Moi je ne veux pas autre chose que ce que Jésus nous enseigne et ce que la Bible nous enseigne, tout simplement. Alors, les valeurs reconnues sont dans le dire qui est suivi du faire. C'est-à-dire que si on dit une chose, il faut le faire. Autrement, c'est pas la peine de le dire. Or, ce qui caractérisait les pharisiens, c'est qu'ils disaient beaucoup de choses en sermon, du haut de la chair, dans la synagogue, hein, ou dans leur lieu de culte, mais finalement, les autres devaient le faire, mais eux pas. C'est pour ça que Jésus dira cette parole, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, parce qu'ils disent, mais ne font pas, tout simplement. Et ça, c'est terrible. N'appelez personne votre père. Ce serait élever à sa perte l'homme, et abaisser Dieu plus bas que sa créature pour arriver à cette aberration que nous connaissons dans Romains. Et je le relis, vous allez le retrouver tout de suite et vous en mémoriser quand il est dit ceci. Ils n'ont pas glorifié Dieu comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ce sont des gens religieux hein, que... Paul fait référence. Se vantant d'être sages et les maîtres à penser, les conducteurs des âmes, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image présentant l'homme corruptible. Quelle descente aux enfers. Hein. Parce que là, je crois que c'est vraiment l'appellation. Hein. Il ne peut pas y avoir autre chose. Faire de l'homme une idole. L'idolâtrie. On l'a souvent relégué dans l'Antiquité, on disait, quelquefois avec un sourire narquois, on dit « Ah bah oui, c'était des idolâtres à ce moment-là ». Aujourd'hui, quand on regarde peut-être certains peuples du tiers-monde, on dit « Ce sont des idolâtres, ces gens-là ». Mais vous ne croyez pas qu'on est tout autant idolâtre dans une forme modernisée, quand on idolâtre un homme, une femme, quelle que soit la discipline dans laquelle il déploie sa vie, en politique, que ce soit dans le domaine artistique. Et dans le domaine religieux, les gens se pâment devant un homme qui a été élevé en dignité par d'autres hommes, mais jamais choisi par Dieu. Parce que s'il avait été choisi par Dieu, on n'adorerait pas cet homme-là. On adore Dieu, mais on n'adorerait pas l'homme. Et on en arrive à l'idolâtrie. Ils se sont fait une représentation. N'ayant pas finalement adoré Dieu comme ils devaient l'adorer. Se faire appeler père, c'est prétendre être comme Dieu qui est parfait. On est d'accord. Alors c'est à nous de montrer notre perfection. Alors que le premier parfait d'entre nous se lève ce matin et vienne nous dire sa perfection. Tout le monde reste assis. Hein. Pouah. Eh oui. Ben oui, parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Vous connaissez ce qu'il nous est dit dans l'épître de Jacques? Il est le Père de lumière. Toute perfection vient de lui. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que nous prétendons avec des mots, avec des habitudes, avec des us et des coutumes, mettre le nom, comme il nous est dit, de Père, finalement, eh bien à la place de Dieu sur des hommes. Ne vous faites pas appeler directeur, nous dit Jésus. Alors peut-être qu'il y a des directeurs d'entreprise. C'est pas pour vous, ça vous concerne pas ce matin. Si vous managez des gens, alors surtout ne soyez pas flûtés, je parle pas pour vous. Non, non. Ne vous faites pas appeler directeur. Mais il y a un sens tout à fait russé, au sens religieux et moral, directeur de conscience, confesseur, si vous aimez mieux. On a connu cette démarche. Enfin, moi, je ne veux pas vous parler de ce qui se fait ailleurs. Je voudrais vous parler de ce qui se fait ici. Vous avez remarqué, il n'y a pas de confessionnal. Et moi, je ne me suis jamais prêté à ça. Parce que quand les gens ont besoin de dire et peut-être parler, de le partager, ça c'est sûr, ils sont toujours envoyés à leur choix et à leur conscience. Et ce n'est pas à nous de trancher à la place de Dieu. Et quelquefois, lorsque nous sommes à même d'entendre des confessions, c'est le mot, eh bien, c'est tout simplement d'envelopper tout cela dans la prière avec la personne et de demander à Dieu qu'il lui donne une véritable repentance avec les fruits dignes de la repentance. Parce que ce qui compte, c'est pas l'absolution d'un homme, c'est l'absolution de Dieu, c'est le pardon de Dieu. Et comme Dieu, quand il y a une véritable repentance, eh bien Dieu pardonne toujours. Il l'a promis. Et ce n'est pas l'affaire de l'Église. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Ce n'est pas l'affaire d'un homme quelconque. Ce n'est pas nous qui remettons les péchés. La rémission des péchés, c'est le Seigneur. Et je voudrais vous dire que quand il y a une véritable repentance, mais les péchés sont déjà pardonnés à l'avance, puisque Jésus est mort pour nos péchés. Pour nous donner véritablement cette paix, cette relation avec Dieu tout à nouveau. Alors, ne vous faites pas appeler directeur, tout simplement. C'est usurper la place du Saint-Esprit, parce que s'il y a quelque chose où il nous est parlé dans l'évangile du Saint-Esprit, il nous est dit que c'est lui qui est le consolateur, c'est lui qui est l'intermédiaire en quelque sorte. Alors c'est usurper la place de l'Esprit-Saint, et Jésus nous le dira d'ailleurs de ses mots mêmes. Il dira, mais le consolateur, l'Esprit de vérité, quand il viendra, eh bien, il vous annoncera toutes choses naturellement. Mais il sera non pas seulement avec vous, mais il sera en vie, le consolateur, celui qui est l'avocat, le paraclète en grec. Il porte, figurez-vous, au verset 5, nous est-il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, naturellement, ainsi ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Si vous avez été en Israël, ou même à Paris, dans le quartier du Sentier, pas du Sentier de... du Marais, voilà. Mais en Israël en particulier, devant le mur des Lamentations, vous verrez que là, c'est... Mais rien n'a changé depuis 2000 ans, vous comprenez ? C'était une prescription de Dieu, les phylactères et les franges, qui remontaient du temps de Moïse. Mais pas dans le sens des Juifs qui vivaient du temps de Jésus. Pas dans ce sens-là. C'était tout simplement, eh bien là, une marque d'observance des commandements de Dieu. Le phylactère, c'est une petite boîte qui est soit lié sur la tête, sur le front, où il y a les quelques commandements de Dieu dedans, ou alors sur les mains, comprenez ? Avec, comment dire, des lanières, ils sont noirs. Et les franges, il y a, qui portaient au niveau des vêtements, vous voyez, un petit peu sur le bas, des choses comme ça, avec un fil bleu. Et ça, c'était aussi un rappel de souvenir des commandements de Dieu. Dans l'authenticité, c'était bien. Mais eux, ils en avaient fait, ils en avaient détourné la nature. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, mais je ne juge pas, mais une chose qui est certaine, c'est que quand vous allez par exemple au mur de Lamentation, vous avez des gens qui, là c'est étonnant pour nous, avec des phylactères, la petite boîte et puis les franges, même des petits garçons qui ont 8, 9 ans, ils ont déjà les franges. C'est curieux tout cela, bon. Mais ça en était devenu du folklore, du temps de Jésus. Et ces phylactères, eh bien là, étaient faits justement, les pharisiens avaient agrandi ces attributs extérieur pour mieux faire voir leur prétendue spiritualité. Les gens se présentaient comme ça devant les autres en disant « ça ne peut être qu'un bon croyant, ça ne peut être qu'un juif ultra spirituel avec tout cela ». Et ils faisaient bien d'autres choses, naturellement. Alors si c'est fait d'une manière ostentatoire pour être reconnu soi-même, sans en oubliant les commandements de Dieu, ça ne sert plus à rien. Et il y a combien de traditions dans notre christianisme ? Même si on voulait les chercher chez nous, on en trouverait. Je ne sais pas si vous allez me garder pasteur. Mais on en trouverait. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais toujours est-il que si c'est pour nous glorifier nous-mêmes, eh ben ça ne sert à rien. C'est complètement inutile. Et ils utilisaient leur position dominante pour assurer leur supériorité et leur position ecclésiastique. C'est nous, vous vous rendez compte? Et ça, c'était un orgueil de domination. Et Pierre nous le dit, il nous le rappelle d'une manière très, très pertinente, me semble-t-il, lorsque l'on lit ce texte. Quand il est question des responsables d'église, d'hier et d'aujourd'hui, quelles que soient les religions, quelle que soit aussi la communauté dans laquelle on se trouve, il nous est dit, cette parole, exhortation pour ceux qui sont en position de conduire le peuple de Dieu. Soignez le troupeau de Dieu, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non pas par contrainte, comme pendant des siècles, les gens ont souffert. Hein. Mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide. Nous ne sommes pas pasteurs pour avoir gagné de l'argent, hein, je peux vous le dire. Hein. Mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voilà le véritable service d'un pasteur. D'un berger. Comme Jésus a été le bon berger. Il n'a pas maltraité le troupeau. Au contraire, il est venu pour le sauver. Jésus dira d'eux, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Pardonnez-moi, mais ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de l'Évangile. Ne mélangez pas, hein, surtout faites bien la différence. C'est Jésus qui l'a dit. Moi, je ne fais que reporter ce qu'il a dit. Hein. Ils font leurs actions pour être vus. Les véritables mobiles sont découverts. Jésus est en train de mettre en lumière ce qu'il voulait que ce soit gardé caché. Est-on vraiment quelqu'un, la question est posée, quand on est accompli, quand on est applaudi et qu'on est reconnu, est-ce qu'on est vraiment quelqu'un? Ah oui. Parce que le monde marche comme ça. Si vous êtes applaudi, si vous êtes aimé, si vous êtes reconnu, alors on vous dira, mais c'est quelqu'un. C'est quelqu'un! Et Jésus nous dit le contraire. Vous êtes caché en Dieu, en Christ. Ouais. Jésus n'a pas fait de bruit. Il n'a pas éteint le lumignon qui fume. Il n'a pas brisé définitivement le roseau qui était plié. Non, Jésus est passé dans ce monde incognito. Et c'est comme ça qu'il est devenu l'homme le plus connu de toute la terre, à travers les temps et les siècles. Et un chrétien, qu'est-ce qu'il doit être? Un fanfaron qui sonne de la trompette devant lui en disant « Regardez comment je suis, regardez ma foi, regardez ceci et cela !» C'est une aberration. Cela s'appelle être vaniteux. La Bible nous en parle dans le livre des Proverbes. On supporte assez mal de rester dans l'ombre. Hein. Ah oui, on le voit déjà en politique. Hein. Ils sont tous en train de faire un petit peu le... Non, et dans le domaine religieux aussi, hein, faut pas faire d'illusion. Et il est triste que quelquefois dans nos églises, on mette des gens en avant. Ouais, si c'est Dieu qui les met en avant avec de véritables et authentiques ministères, d'accord. Mais quand c'est eux qui se proposent, qui se disent « Regardez-moi, j'ai reçu quelque chose du Seigneur », à partir du moment où on commence à dire « J'ai reçu quelque chose du Seigneur » ou « Dieu m'a donné des dons », bah ça annule tout le reste. La discrétion est une gloire. Or, les pharisiens étaient emplis de leur petite personne et ils s'exhibaient ostensiblement. Et voilà la suite. Verset 5, la dernière partie du verset 5, il nous est dit donc, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes. Rabbi, Rabbi, ce que nous avons dit il y a tout à l'heure. Ils aiment. Est-ce qu'ils s'aiment eux-mêmes ou ils aiment Dieu? Ils vous diront, mais nous aimons Dieu à travers l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Et les autres alors? Où ils sont dans cette affaire? Ils aiment les premières places. Ils aiment les premiers sièges, à être salués, à être appelés, etc., etc. Partout où ils peuvent attirer les regards sur eux, eh bien ça fait véritablement leur gloire et leur bonheur. Amour égoïste. Immodéré de se croire être sans l'être, sans être vraiment. Ramener tout à soi fait preuve d'étroitesse et de pauvreté d'intelligence. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à ses pharisiens et à ses scribes. On comprend qu'ils l'ont crucifié. Ah, dites donc, quand il leur dit « race de vipère », c'est un petit mot gentil, hein. Et il leur dira « vous êtes destinés à la géhenne ». Ça, c'est tout aussi gentil. Mais pourquoi Jésus ? Jésus que nous connaissons si doux, que nous connaissons tellement rempli d'amour pour les hommes, a-t-il pu parler à ce genre d'individu avec une telle sévérité, alors qu'il était beaucoup plus compatissant pour les prostituées, les publicains et tous les autres ? Pourquoi ? Parce que il va leur dire, et on va le voir la prochaine fois, il leur dit pendant 7 fois, vous êtes des hypocrites. Je commence à m'énerver. Bon, quoique je me calme. Appelé par les hommes rabbi, nous l'avons dit. C'est une caresse agréable, hein, quand on vous dit vous êtes monsieur un tel, monsieur ceci, monsieur cela, et quand on commence à présenter sa carte de visite avec ses états de service. Vous vous rendez compte, ça fait bien. Hein. C'est terrible, hein, mais il y en a certains qui veulent être pasteurs pour le titre. Excusez-moi. Ils sont pasteurs pour le titre. Bon, on n'est pas pasteur pour les titres. On est pasteur parce qu'on est appelé et on n'est pas pour se donner à soi-même, on est pour se donner aux autres et pour Dieu. Car est-ce agréable que d'être considéré comme maître à penser par ceux qui ne pensent pas? Moi, je dis que chacun est libre de penser, et il faut qu'il pense. Docteur des insensés, conducteur des aveugles. On pourrait peut-être parler, les mots sont durs hein, ce matin. La galerie des grotesques. Ouais. La galerie des grotesques. La société est pleine de grotesques. On appelle ça les people. Oh là là. Je ne vous le dirai à personne. Les hebdomadaires, les mensuels, tout est rempli de people. Mais il n'y a pas de people dans l'église. Voilà, avec les paparazzi là, qui sont en train de prendre des photos de ceci et cela. Vous éterniserez pas sur ma photo qui est sur l'entrée. C'est pas moi qui l'ai faite. Hein. Parce que je suis passé dans le journal dernièrement, et puis bon, on est venu me prendre une photo, mais je voulais pas. Je me suis défendu. Hein. Non, c'était pour l'ouverture de la nouvelle salle de Redon, hein, tout simplement. L'orgueil, selon l'expression que j'ai trouvé formidable, la gloire humaine et le deuil éclatant de la véritable sagesse. Je le répète, la gloire humaine et le deuil éclatant de la véritable sagesse. Tout cela respire le mépris d'autrui. L'homme a cette propension innée à l'orgueil. Il montre dans le monde ses muscles, sa force, sa science, sa sagesse et, surprise, sa religion. On le voit là actuellement avec l'histoire de l'islam, la religion. Ah ! Et on fait des prouesses en coupant la tête des gens, en faisant couler le sang, etc., etc. On est fier de Dieu. Mais est-ce que Dieu est fier dans son sens ? C'est une autre affaire. Hein ? Eh oui. C'est la chose la plus terrible qui existe. La religion, c'est pire que la politique. On en aura peut-être les effets d'ici quelques années. Hein. On est peut-être déjà dedans. Or, un orgueilleux qui s'ignore est un grand susceptible. Ah, il ne supporte pas. Vous savez ce que c'est que la susceptibilité ? C'est une disposition à se sentir offensé par la moindre atteinte à notre amour-propre. Pas à l'amour, mais à notre amour-propre, c'est notre orgueil. On est froissé, on est vexé, on est contrarié. Et il y a une citation que j'ai trouvée, parce que j'aime bien, moi, regarder un petit peu partout, dans les citations, les proverbes, les maximes, etc. Quelqu'un dit, « Il y a des gens qui ont la susceptibilité de l'huître, qu'on ne peut toucher sans qu'ils se rétractent. » Toc, c'est fermé, c'est terminé, et ils peuvent devenir agressifs, parce que quand vous mettez le doigt dans la coquille d'une huître et que c'est refermé, vous n'avez plus qu'une main pour vous libérer, hein, et vous pouvez secouer. Hein. Eh bien, quelquefois, la susceptibilité, c'est ça. Hein. C'est très difficile. C'est quelque chose que Dieu est capable aussi de nous délivrer. Dans Matthieu, pour nous montrer ses œuvres ostentatoires, vous le connaissez, c'est dans le sermon sur la montagne, écoutez bien, je ne résiste pas de vous le lire. Jésus dira, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'auriez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Lorsque vous jeûnez, summum, ultime, sommet, on peut dire, de la spiritualité, on peut le dire, hein, c'est tout, hein, seulement le dire. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Vous avez vu comme je suis spirituel? Ça fait 80 jours que j'ai pas mangé. Et il faut que tout le monde le sache. On va passer un article dans le journal, je vais peut-être même passer à la télévision, vous rendez compte? Je vous le dis en vérité, dit Jésus, ils ont leur récompense. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, ton Père qui est dans le secret, te le rendra pour être vu des hommes. Ah, c'est ça la belle affaire, pour être vu des hommes, pour être aimé des hommes, se faire voir. Et Jésus dira au verset 8, et je termine, mais vous, mais le mais vous, c'est nous, ce sont les chrétiens, chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont convertis à Jésus-Christ, qui sont attentifs à la parole que Jésus nous laisse. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous avez tous frères, nous l'avons dit. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Ne vous faites pas. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Mais est-ce que véritablement les chrétiens qui se disent chrétiens, prétendument chrétiens, ont lu l'évangile? Parce que quand on a lu l'évangile, on ne peut pas faire autrement que de vivre ce que Jésus nous a demandé. C'est le respect de sa parole. Et quand on respecte la parole de Jésus, on respecte Jésus lui-même. Et quand on respecte Jésus lui-même, on respecte Dieu. Deux mondes, deux mentalités. Et Jésus poussera à l'audace même de dire « Ne multipliez pas de vaines paroles lorsque vous priez, comme les païens. » Ça voulait dire que les pharisiens, les sadducéens, comme tous ceux qui sont pas nés de nouveau, ce sont des païens et pas des chrétiens. Deux mentalités, un chrétien digne de ce nom, doit avoir en aurore ses pompeuses vanités, ses qualificatifs, et ne pas les exiger d'aucun, ni même les permettre. Il y a une règle absolue, c'est l'humilité. Et la modestie, c'est la vraie humilité, parce qu'il existe hélas une caricature que je voudrais vous citer, qui est donnée dans Colossiens par Paul, pour ceux qui se croient véritablement chrétiens, pour ceux qui manipulent les autres, pour ceux qui exercent une autorité sur leur conscience et leur réflexion, leur pensée. Écoutez, il est dit, si vous êtes mort avec Christ, donc né de nouveau, eh bien, pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, vous impostant ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Et ça, la religion, sans l'esprit, elle a abusé. Elle a captivé les hommes, elle les a mis en prison, elle les a renfermés dans des forteresses de l'entendement, avec la crainte que s'ils en sortent, ils sont perdus. Et qui sont fondés que sur des ordonnances et les doctrines des hommes, ils ont en vérité une apparence. C'est l'apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela n'a aucune valeur réelle et ne peut satisfaire que les désirs de la chair, c'est-à-dire les désirs de l'homme. Il n'y a rien du tout qui puisse plaire à Dieu. C'est la chair, et la chair? La chair, elle est condamnée. Par contre, comme nous l'avons vu dans notre étude, si véritablement c'est l'Esprit de Dieu qui conduit notre esprit domine notre chair, notre âme et notre corps, alors à ce moment les choses sont gagnées. C'est autre chose. Car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Le souverain à qui l'honneur suprême revient, c'est Dieu seul. On est d'accord là-dessus. Si l'on ne sait pas ou l'on ne veut pas reconnaître, ou l'on ne veut pas le comprendre naturellement, eh bien, en tous que nous sommes et en chacun, si nous ne reconnaissons pas nos frères et nos sœurs, alors que nous sommes tous nés de nouveau, eh bien, c'est qu'on n'a pas compris. Au sens et à la signification de l'unique valeur du nom merveilleux de Père. S'il y a un Père, c'est que j'ai des frères et des sœurs que je dois respecter, que je dois aimer. Autrement, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce que veut dire le mot Père, le nom merveilleux de Père. Parce que ce Père est dans les cieux. Moi, je suis sur la terre. Et il y a des choses qui nous sont bien clairement définies. Lorsque nous citons le Notre Père, le Notre Père que Jésus nous enseigne nous place dans la position filiale, c'est-à-dire lui le Père, moi le Fils, naturellement, sans omettre notre position et responsabilité fraternelle. Autrement, ça ne sert à rien. Comme nous parlons comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, notre Père qui es aux cieux, mais comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Premier verdict, nous l'avons vu, et je termine, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, nous dit Jésus. Quiconque s'élèvera sera abaissé, le royaume de Dieu est régi par un principe de la petitesse à la grandeur. Oui, c'est pas le contraire. Or, les pharisiens voulaient commencer par être grands sans véritablement penser une minute qu'ils pouvaient être petits, et qu'ils étaient petits. Ils étaient petits en tout, d'ailleurs. Et de l'élévation à l'humiliation. Cette règle se vérifie toujours dans l'histoire. Et on comprend, et je finis, ce conseil que Jésus donne à chaque fois dans les récits de l'Évangile, quand il dira à ses disciples, « Gardez-vous du levain des pharisiens. » Gardez-vous du levain des pharisiens. Nous verrons la prochaine fois cette parole où nous reprendrons et nous recommencerons ce, nous entreprendrons ce sentencieux réquisitoire sans appel exprimé par ces sept redoutables malheurs. Voilà. Malheur à vous, pharisiens. Et on verra ce qu'il y a dedans. Parce que ce matin, on n'a mis que le principe. Mais on verra comment il se comportait, ce qu'il faisait. Et vous allez voir que ça allait du vol, de l'hypocrisie, du mensonge et de l'orgueil jusqu'au crime. Jusqu'au crime! Alors là, c'est quand même assez surprenant. Mais c'est pas surprenant quand on regarde l'histoire. N'y a-t-il pas eu des guerres de religion? Bon, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne sa grâce, et nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole, parce que ce sont des choses qui sont enseignées par toi. Et nous ne voulons pas faire autrement que de les dire et de les redire à l'Église d'aujourd'hui, dans notre 21e siècle. Parce que nous savons, Seigneur, que cette parole est une parole éternelle, et qui vaut, Seigneur, d'un diagnostic profond sur l'âme humaine, sur l'homme dans ce qu'il est, dans ses prétentions, dans son orgueil. Mais aussi, Seigneur, nous croyons que cette parole a été donnée pour que les pharisiens, que tous les scribes de tous les temps, eh bien, puissent reconnaître la vérité, parce que celui qui reconnaît la vérité, eh bien, il est sauvé. Il sort de ce contexte. Il va lui-même, eh bien, demander à Dieu, crier à Dieu pour qu'il soit délivré de ces forteresses de l'entendement. Ouais, c'est ce qui s'est passé pour des millions et des millions d'hommes qui, à la lecture, à la compréhension de ce texte même, eh bien, véritablement ont fait le pas. Ils ont changé de camp, tout simplement. Et, comme Paul le disait hier, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors maintenant, Seigneur, tu bénis mes frères et mes sœurs. Tu bénis mes amis, Seigneur, qui écouteront certainement et bien plus tard, qui liront cette parole pour qu'ils comprennent qu'il n'y en a qu'un qui est Sauveur et Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et nous te bénissons, alors nous plaçons cette parole sur notre cœur et nous te louons et nous te remercions pour que nous ne soyons pas seulement des chrétiens de nom, mais des chrétiens de cœur et d'esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.